Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia, bonjour. Le Niger a de nouveau été la cible d'attaques de djihadistes présumés qui ont fait 58 morts dans l'ouest du pays, près du Mali. Nous aurons de Niamey notre correspondant Abdulrazak Idrissa. 11 soldats maliens ont été tués et 15 autres portés disparus après une embuscade tendue par des combattants islamistes à une patrouille de l'armée dans la région de Gao, dans le nord du Mali, a déclaré mardi l'armée. Elle a rapporté dans un communiqué cité par l'agence Reuters que 14 soldats ont été aussi blessés, indiquant que 8 d'entre eux se trouvaient dans un état grave. 7 assaillants ont été tués au cours d'un échange de coups de feu. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé avoir rencontré mardi Succès Masra, le jeune leader du mouvement Les Transformateurs et l'un de ses plus farouches opposants. Vive critique des internautes et autres acteurs politiques qui soutiennent ce dernier. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, y reviendra plus en détail et nous entendrons son interview exclusive avec le docteur Succès Masra lui-même en seconde partie de cette édition. Le gouvernement sénégalais a annoncé mardi avoir conclu, après des mois de laborieuses négociations avec le groupe français Eiffage, un nouvel accord pour la gestion d'une importante autoroute à péage, lui assurant plus de revenus et une participation accrue à la gouvernance. La signature de l'accord portant sur la gestion de l'autoroute de l'avenir, allant de Dakar au-delà de l'aéroport international sur environ 90 km, celle des mois de tractations menées sous la pression de groupes politiques et d'une partie de l'opposition, accusant le pouvoir d'avoir bradé les intérêts sénégalais au bénéfice d'une entreprise étrangère. L'Agence européenne des médicaments s'est déclarée mardi fermement convaincue des avantages du vaccin AstraZeneca contre le COVID-19, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays inquiets de possibles effets secondaires. Nous reviendrons sur le sujet en seconde partie de cette édition avec Jacques Aristide. L'ONG Human Rights Watch a accusé mardi les rebelles houthis du Yémen d'avoir lancé des projectiles non identifiés sur un centre de migrants à Sanaa, provoquant un incendie et en fait des dizaines de morts, drame sur lequel l'ONU a réclamé une enquête indépendante. Les hommages ont afflué mardi lors des funérailles de dizaines de manifestants pro-démocratie tués ces derniers jours en Birmanie, où des centaines de personnes sont portées disparues depuis le coup d'État du 1er février, selon l'ONU. Washington et Tokyo ont mis en garde Pékin mardi contre toute tentative de coercition et de déstabilisation de la région à l'issue d'entretiens diplomatiques et militaires de haut niveau visant à renforcer leur alliance contre les ambitions croissantes de la Chine. L'influenceur du leader nord-coréen Kim Jong-un a mis en garde Washington contre toute tentative, je cite, « de répandre une odeur de poudre », ont rapporté mardi des médias d'État, alors que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son collègue du département d'État, Antony Blinken, entamaient une visite à Tokyo et Séoul. 8 personnes, parmi lesquelles 6 femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle mardi dans 3 salons de massage autour d'Atlanta en Géorgie, a rapporté la police en précisant l'arrestation d'un suspect. On ignorait en fin de soirée si ces attaques avaient un mobile raciste, mais elles sont intervenues dans un contexte de recrudescence des actes anti-asiatiques aux États-Unis. Israël a dévoilé mardi des fragments d'un parchemin biblique vieux de 2000 ans, découvert dans le désert de Judée, qualifiant cette découverte d'historique et d'une des plus importantes depuis celle des mythiques manuscrits de la Mer Morte. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sédoudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations. Au Tchad, le docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et quelques membres du bureau de son parti, ont été reçus par le président Idriss Déby Itno ce mardi. Une rencontre vivement critiquée par les internautes et autres acteurs politiques qui le soutiennent dans la lutte. André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
La nouvelle s'est très vite répandue sur la toile suite à l'annonce du président Déby lui-même sur sa page Twitter et je cite « J'ai reçu cet après-midi mon jeune compatriote Dr Succès Masra. Nos échanges ont porté sur quelques sujets en lien avec la vie nationale. L'intérêt supérieur de notre nation doit transcender toute autre considération. » Fin de citation. Une information qui a surpris les militants du parti, les transformateurs et même certains internautes qui s'interroge sur la nécessité de la rencontre entre les deux adversaires politiques à un mois de l'élection présidentielle. Écarté de la course pour la magistrature suprême de 2021 à cause de son âge, l'opposant a déclaré 120 jours de colère en appelant à la rue avant de déposer sa candidature qui finalement a été rejetée par la Cour suprême. Sur les réseaux sociaux, chacun va de son commentaire. Pour certains, Dr Succès Masra, qui a été même diabolisé et continue de faire l'objet de persécutions par le régime au pouvoir, ne peut pas rencontrer le président Déby en catimini. D'autres estiment que le leader Masra est un homme de conviction et il sait ce qu'il fait. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le docteur Succès Masra a accordé une interview exclusive à notre correspondant André Kotmajingar. Ce sera en seconde partie de cette édition. 58 personnes sont mortes lundi au Niger dans une attaque attribuée à des hommes armés non identifiés par le gouvernement. Elle a eu lieu dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali. C'est le deuxième grand massacre de civils dans cette zone depuis le début de l'année. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon un communiqué du gouvernement lu à la télévision publique par le ministre porte-parole du gouvernement, ce sont des groupes d'individus armés non identifiés qui ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers du retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou. Ils ont ciblé et exécuté 58 personnes sur place et dans le village de Dari Dari où se rendait un des véhicules. Là-bas, ils ont également incendié des greniers. Des 4 véhicules, les 2 ont été incendiés et les 2 autres emportée. Cette autre attaque intervient dans la zone frontalière avec le Mali, où en janvier dernier, une centaine de civils a été tuée. Massacre après lequel les autorités ont annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire mis en place avec l'appui des partenaires américains et français. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, c'est aujourd'hui que les militaires doivent voter par anticipation dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars. Le vote aura lieu dans les centres de vote habituels et non pas dans les casernes. L'opposition émet des doutes quant à ce vote. Des explications d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est des casernes que les militaires partiront en véhicule pour aller accomplir leurs devoirs civiques dans les 131 bureaux de vote ouverts à l'occasion. Le vote de ce matin concerne près de 60 000 militaires. Le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, qui organise une visite dans les lieux de vote des soldats, n'a fait aucune déclaration sur les détails de ce vote. Aucune activité de campagne n'a également été organisée dans les casernes ou n'a ciblé directement les militaires. Pour l'opposant Mathias Nzon, candidat à cette élection présidentielle, le vote des militaires est une caution à la fraude, alors que Guy Brice Parfait-Kolela, un autre candidat, n'accorde pas de crédit à la procédure de scellage des urnes. En effet, les bulletins de vote ne seront pas aussitôt compilés, mais les urnes seront scellées jusqu'à dimanche prochain. C'est pour la première fois que le Congo-Brazzaville organise le vote par anticipation des militaires. Le reste du corps électoral ira aux urnes dimanche. La campagne électorale a été suspendue de 2 jours pour permettre aux militaires de voter. Contrairement au vote de dimanche prochain, les administrations, les commerces et les transports ne sont pas fermés. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les Nations Unies demandent $1 milliard pour répondre à la crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria. Plus de 5 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire après 12 ans de violence djihadiste, Nathalie Barge.
Dans un communiqué, l'ONU indique que l'insécurité et la violence ajoutées au dérèglement climatique et à la crise du coronavirus ont porté le nombre de personnes dépendant de l'aide humanitaire à environ 9 millions. Près de 2 millions sont déplacés et ne peuvent toujours pas regagner leur foyer et 5,1 millions sont en insécurité alimentaire en cette période de soudure, mais en garde l'ONU. Les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest sont engagés dans un conflit meurtrier avec l'armée nigériane. Des millions de personnes vivent dans des camps insalubres dépendant de l'aide internationale. La crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria est l'une des plus graves au monde. L'an dernier, l'ONU avait demandé plus de 800 millions de dollars, mais n'avait obtenu que 55% de cette somme.
Et maintenant, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous. Rentré en Afrique du Sud, Patrice Motsepe s'est exprimé devant la presse. Le nouveau président de la CAF a évoqué certaines de ses priorités et a confirmé le maintien de la CAN tous les 2 ans. Pour son programme de travail, il a laissé entendre qu'il aura également 2 autres assemblées générales avec tous les présidents des associations membres de la CAF afin de parler des mesures qu'il faudra prendre pour améliorer le football sur le continent. Par rapport à la nomination du nouveau secrétaire général, le Sud-Africain a expliqué qu'il avait besoin de résultats et de quelqu'un qui puisse prendre les choses en main, d'où son choix sur Monsego Véron. Et pour les finances, il entend faire ce qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'Afrique pour donner plus de valeur à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Ligue des Champions. Sur le terrain, la 4e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions CAF a débuté cet après-midi avec les matchs du groupe A. Al Ahly du Caire est allé imposer son statut de champion d'Afrique face à l'AS Vita Club à Kinshasa. Score 3-0. Dans l'autre match du groupe, le leader surpris Simba n'a pas fait de détails devant les Soudanais d'Al Merrekh. Sur le même score 3-0, les Tanzaniens ont remporté leur match, confortant ainsi leur place de leader avec 10 points, 3 de plus que Al Ahly. V-Club arrive à la 3e place avec 4 points et El Merrekh dernier avec un seul point. Il faut dire que les derniers matchs de cette 4e journée auront lieu dans le groupe B. Et à Alger, Tanguard FC va jouer sa dernière carte face au Mouloudia. Le club sénégalais, dernier du groupe avec seulement 1 point, doit absolument l'emporter s'il veut conserver des chances de qualification. Son entraîneur, Youssouf Dabo, reste tout de même confiant.
C'est vrai que c'est un match capital pour nous. Ça va être très difficile, comme tous les matchs que nous avons faits précédemment. Mais nous savons que nous avons nos chances aussi. Ce qui est important, c'est notre capacité à réagir dans ces situations. Même si on est une équipe jeune, avec... très peu d'expérience à ce niveau. Nous avons des armes aussi. Le match passé contre le Mouloudia, on l'a vu, sur une seule frappe, ils ont eu 100% de chance. C'était leur seule frappe du match. Ils ont passé tout le match après dans leur camp. Nous, on sait qu'on a les moyens de les battre. Et eux, ils savent qu'on a les moyens de les battre.
Dans l'autre match du groupe, le Zamalek, où Patrice Cateron vient de retrouver son poste d'entraîneur, se trouve lui aussi dos au mur avant de recevoir l'Espérance de Tunis qu'il a battu 3-1 à l'aller. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait sérieusement lui compliquer la tâche. Et puis, on joue aussi la Ligue des Champions en Europe avec la suite des 8e de finale retour. Le Real Madrid reçoit Atalanta de Bergame et devra confirmer son bon résultat au match aller en Italie pour se qualifier. Pour Manchester City, l'affaire est encore mieux engagée face au Borussia Mönchengladbach puisque les joueurs de Pep Guardiola se sont imposés 2-0 au match aller en Allemagne. Les 2 derniers matchs de ces 8e de finale retour auront lieu demain.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc, le docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et quelques membres du bureau de son parti ont été reçus par le président Idriss Déby Itno ce mardi. Une rencontre vivement critiquée par les internautes et autres acteurs politiques qui le soutiennent dans la lutte. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, a pu s'entretenir avec le docteur Succès Masra.
Nous sommes allés parler au président Déby de l'avenir et notamment nous lui avons adressé 20 propositions à l'époque, le 10 octobre 2019, pour lui parler d'alternance, pour lui parler de transition vers un nouveau Tchad. Et aujourd'hui, avec les circonstances nouvelles, en ayant accepté de nous recevoir, nous avons eu l'occasion donc de lui dire que le peuple attend un changement majeur. Et ce changement, ça doit se passer par un dialogue. Ce dialogue, nous ne sommes plus les seuls à le demander. Même le secrétaire général des Nations Unies nous y a rejoint. Donc nous lui avons suggéré, en lieu et place d'une élection, d'organiser un dialogue. Un dialogue qui va permettre à tout le monde de pouvoir, en tout cas à l'intérieur du Tchad, mais aussi de la diaspora, un peu sur la formule de la Conférence nationale souveraine, et de parler de conditions d'une sorte un peu de transition qui nous permettra d'avoir des élections couplées, législatives et présidentielles.
M. Kshebastra, est-ce que le président Déby a reconnu le parti de transformateur comme un parti déjà légal?
Il l'a reconnu lui-même devant nous que, passé le délai légal, eh bien, il était tout à fait normal que nous exercions comme un parti politique. Pour lui, il n'y a même pas de débat. Il est le garant de la loi. Et donc, je crois que ça aussi, c'est très clair. Ça permet de clore le débat sur l'ensemble de ces sujets-là.
Quand vous lui avez parlé donc de la nécessité d'aller au dialogue avant les élections, quelle a été sa réaction?
Il dit qu'il est un homme de dialogue. Sa crainte, c'est la crainte d'un vide juridique. Mais nous avons essayé aussi de montrer que le vide juridique n'est pas en soi un problème. Le mandat du président Déby actuellement va jusqu'en août. Et s'il propose un dialogue avec tous les acteurs, on a le temps d'organiser ce dialogue en un mois. Et ensuite de convenir, parce qu'on peut donner quelques mois d'une transition qui permettra donc derrière que nous puissions ainsi arriver à quelque chose de solide, parce qu'au final, personne n'est éternel. Nous sommes arrivés à la conclusion avec le président Déby que nous devrions revenir donc vers tous les acteurs. Et je lance un appel donc à tous les acteurs politiques et toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble, nous puissions accoucher par écrit ce document qui doit comporter nos propositions allant dans le sens de ce que nous venons de dire.
Docteur Kshebastra, les internautes trouvent anormal que vous discutiez avec le président Déby dans cette condition. Que répondez-vous?
Vous savez, il y a un monsieur qui est un patrimoine universel de l'humanité, il s'appelle Nelson Mandela. Même quand il était en prison pendant 27 ans, il dialoguait avec les bourreaux qui l'ont mis en prison pendant 27 ans. Avez-vous l'impression que Nelson Mandela est diminué aujourd'hui? Parce qu'il a dialogué avec le même monsieur là, qui avait installé une injustice coriace, mais c'est avec cette même personne là qu'ils ont eu le prix Nobel de paix ensemble en se tenant la main. Tout le monde connaît ce que nous pensons du leadership actuel du Tchad. Nous n'avons pas besoin de faire une démonstration. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est l'injustice.
Et donc, docteur Mansara, ce n'est pas une capitulation?
Non, jamais, 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 jamais. Nous sommes transformateurs, nous allons le rester pour le restant de notre vie, mais nous sommes tchadiens et nous travaillons à instaurer la justice. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ma base et les tchadiens qui me font confiance aujourd'hui savent qu'ils peuvent continuer à me faire confiance. Je pense que le président Déby, le moment est venu pour lui de se reposer. Je l'ai lui ai dit en face. Je ne suis pas passé par des médias ou par l'intermédiaire. Non, j'ai eu l'occasion de lui dire directement. Je crois que c'est ça la chose la plus importante pour l'avenir.
Le docteur Kshebastra, interviewé par notre correspondant à Niamena, André Kotmadjingar.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Les forces spéciales américaines vont former pendant 2 mois la marine mozambicaine pour aider le Mozambique à faire face à l'insurrection islamiste dans le nord. Le gouvernement américain a aussi fourni des équipements médicaux et de communication. Les formateurs américains du programme baptisé Joint Combined Exchange Training sont déjà dans le pays. John Lyndon a joint David Zoumenou, chercheur à l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria, en Afrique du Sud.
Depuis quelques années, le Mozambique est pris dans l'étau des activités des groupes islamistes, particulièrement dans sa région septentrionale. Le groupe appelé l'État islamique en Afrique centrale, qui continue d'étendre ses tentacules dans cette zone, faisant des ravages. Donc cela fait une préoccupation aussi bien pour les pays de la région que pour les États-Unis. Et c'est là tout leur intérêt de voir comment assister le gouvernement mozambicain pour venir à bout de cette organisation. Il y a des croisements entre l'État islamique du Levant et d'autres groupes terroristes qui pilulent le continent. Il y a aussi des soupçons de relations qui peuvent exister entre l'ADF et l'alliance des démocrates ou des islamistes qui sont à Béni, au nord du Kivu, en démocratique du Congo. Et cette combinaison, en tout cas, elle fait peser des menaces sur la stabilité du Mozambique. Et vous n'êtes pas sans savoir également que le Mozambique vient de découvrir d'immenses gisements de gaz qui représentent aussi ou qui accroît l'intérêt des États-Unis. Et pour finir, le gouvernement mozambicain, depuis lors, a fait montre de faiblesse quant à la stratégie, surtout la capacité de répondre aux menaces que pose ce groupe-là qui a carrément pris quartier à Cabo Delgado.
Alors, vous parlez de groupe. Il y a justement Al-Shabaab qui a fait allégeance au groupe État islamique en 2019 et qui sème la terreur justement dans cette région. Au fond, quelles sont les motivations de ce genre de groupuscule terroriste, on va dire?
Oui, si on parle d'Al-Shabaab, c'est beaucoup plus du côté somalien. Je dirais qu'on parle de connexion entre Al-Shabaab et ce groupe qui s'est installé au nord du Mozambique et qui certainement essaie d'entretenir des relations avec l'État islamique du Levant. La motivation de ce groupe terroriste est d'imposer une forme radicale de l'islam par la violence, mais également il faut dire qu'il y a une entreprise criminelle qui sous-tend leurs activités. Et parce que le problème n'est pas peculier au Mozambique, vous avez vu dans le Sahel également, qui fait face à un pléthore de groupes islamistes ou de groupes djihadistes qui menacent et l'intégrité territoriale et la sécurité ou même la survie des habitants dans ces contrées-là. Donc face à cette menace d'expansion du djihad, il faut développer des réponses cohérentes et globales.
David Zulmenou, chercheur à l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria, en Afrique du Sud.
VOA Afrique, en direct de Washington.
L'Union internationale pour la conservation de la nature, basée en Suisse, organise un sommet mondial de la jeunesse sous forme virtuelle du 5 au 16 avril 2021. Parmi les participants, il y a des ambassadeurs d'un programme de formation en ligne qui rencontre un grand succès en Afrique. Plus de 65 000 personnes ont suivi ce programme. Notre correspondante à Johannesburg, Valérie Hirsch, a rencontré son responsable, Geoffroy Malfay, qui vit dans une réserve privée d'animaux dans le nord de l'Afrique du Sud.
Au lever du soleil dans la brousse, Geoffroy Malfay regarde parfois passer des éléphants devant chez lui. Le vétérinaire français qui dirige le programme des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Afrique depuis 2006 passe sa journée devant son ordinateur où il gère le site Papaco, qui propose 6 MOOC, des cours en ligne, qui contiennent chacun une quarantaine de vidéos de 10 minutes en français et en anglais, suivies par un examen.
Donc là, cette séquence sur la gouvernance est présentée par professeur Ndiaye de l'Université Charlotte Diop de Dakar.
Les premières aires protégées créées au début du XXe siècle sont dues à des initiatives comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Soudan français, en Guinée-Conakry, en Haute-Volta, au Dahomey, au Niger, etc. Aires protégées étatiques.
Sur cette plateforme, tu as l'ensemble de nos MOOC, suivi écologique, application des lois, conservation des espèces, valorisation des aires protégées, nouvelles technologies et aires marines protégées.
Les 6 cours en ligne, un 7e proposé par l'université Sangor de la francophonie basée à Alexandrie en Égypte, aboutissent après examen à un certificat universitaire. Pour faire connaître les cours, Papaco a mis sur pied un réseau d'ambassadeurs bénévoles comme Pascal Féline Voto Akono à Yaoundé.
Il peut constituer un réseau de jeunes qui sont passionnés par la conservation de la nature. Donc on organise souvent des excursions pour montrer ce qui est fait en termes de conservation au Cameroun.
Ces formations sont peu coûteuses et permettent d'avoir un impact important auprès des gestionnaires de réserves naturelles, mais pas seulement.
Ça permet de renforcer les capacités des gens qui sont en charge des aires protégées et dont la plupart, notamment en Afrique francophone, n'ont pas eu de formation spécifique sur ces sujets. Mais après, il y a la sensibilisation de tous les autres. Donc quand je parle des élus, je parle des communautés, je parle donc des enseignants, il y a un intérêt de plus en plus fort pour tout ce qui parle d'environnement. La preuve, c'est qu'en 2020, peut-être un peu aussi à cause de la pandémie et du fait que les gens en prenaient en ligne, on a eu plus de 23 000 étudiants au cours de l'année.
Kevin Kassouin est ambassadeur des MOOC au Bénin. Il a notamment créé un réseau de jeunes ambassadeurs de la nature dans son pays.
Ils ont suivi les cours. Hein. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens pour acheter les data, pour aller télécharger les cours. Bon.
Néanmoins, les MOOC ont permis, au-delà des formations, de créer de nombreux réseaux d'échanges, d'expériences sur la conservation de la nature à travers le continent. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède, ont décidé de suspendre l'administration du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus après le signalement de possibles effets secondaires, en particulier des hémorragies. Mais l'OMS estime que le vaccin AstraZeneca est sûr. Le point avec Henri Ridgewell du bureau de la VOA à Londres. Le récit est signé Jacques Aristide.
L'Agence européenne des médicaments demeure fermement convaincue des avantages du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca après des rapports faisant état de caillots sanguins post-vaccination, mais sans lien avéré à ce stade. Une quinzaine de pays de l'Union européenne ont tout de même suspendu par précaution l'administration du vaccin du laboratoire suédo-britannique. Jens Spahn, ministre allemand de la Santé.
Il ne s'agit pour l'heure que d'une mesure prise uniquement à titre de précaution.
Il y a quelques jours, la Norvège a rapporté le décès d'une soignante de moins de 50 ans qui a succombé des suites d'une hémorragie cérébrale. Elle avait été hospitalisée une semaine environ après avoir reçu le vaccin AstraZeneca sans qu'un lien de causalité puisse être établi à ce stade. Trois autres Norvégiens ont également été hospitalisés. Sigurd Hortemo, médecin-chef de l'Agence norvégienne des médicaments.
Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire si les cas sont liés au vaccin, mais en raison de leur gravité, nous enquêtons de manière approfondie.
Des pays en dehors de l'Europe, soit le Congo et l'Indonésie, ont aussi retardé l'administration du vaccin AstraZeneca. L'OMS, quant à elle, affirme qu'il n'y a aucune preuve que ce vaccin provoque des caillots sanguins. L'agence onusienne appelle à continuer à l'utiliser. Docteur Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS.
Sur les 330 millions de doses de vaccins qui ont été administrées, nous n'avons connaissance d'aucun décès confirmé lié au vaccin anti-Covid. Il y a eu des décès post-vaccination chez des personnes, mais des gens meurent de maladies chaque jour.
Sur les 17 millions de personnes en Europe qui ont reçu son vaccin, AstraZeneca affirme que moins de 40 individus ont développé des caillots sanguins. Le vaccin est un élément important dans les programmes de lutte contre le coronavirus. AstraZeneca est relativement bon marché et n'a pas besoin d'être stocké à des températures extrêmement basses comme pour les vaccins de Pfizer ou Moderna. Les agents de santé nigérians ont commencé à recevoir le vaccin AstraZeneca vendredi dernier. Akin Abayomi, commissaire à la santé de l'État de Lagos.
Nous ne pensons pas que cette information soit une raison pour nous de ralentir notre réponse vaccinale anti-Covid-19.
Des scientifiques craignent que l'arrêt des vaccinations n'affecte la confiance mondiale. Le professeur Paul Hunter de la Norwich School of Medicine.
Il faut absolument enquêter. Je pense que la grande préoccupation est que nous savons qu'en fin de compte, en particulier à un moment où la maladie est encore très répandue et en augmentation dans un certain nombre de pays européens, tout retard dans les vaccinations entraînera des cas plus graves et davantage de décès.
Les enquêtes sur les effets secondaires signalés pourraient avoir des conséquences inattendues, d'après le professeur Hunter.
Dès que vous commencez à vous inquiéter d'un résultat indésirable particulier, plus de gens sont susceptibles de signaler ce résultat. Et vous pouvez en fait presque générer une fausse impression d'épidémie.
Le Brésil, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, vient de donner son feu vert au vaccin AstraZeneca. Son utilisation n'a pas encore été autorisée aux États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.